ces deux choses, c'est vraiment quelque chose qui est très, très complémentaire. Et quand on met les groupes français et allemands ensemble, les groupes d'élèves, ils vont se rendre compte assez rapidement qu'ils peuvent très bien apprendre la façon de faire de l'autre pour compléter leur vision. Voilà, on va revenir un petit peu donc, à la fin des années 50. On avait dit qu'on commence à mieux se connaître. Et grâce aux intellectuels, comme par exemple Joseph Rovan ou Alfred Grosser, Alfred Grosser est toujours vivant, qui sont des intellectuels qui fondent, par exemple, un cercle d'amis franco-allemands qui a donné lieu aussi aux échanges. Et l'échange, l'outil le plus intéressant, c'est l'échange des jeunes. Donc, on avait, suite au traité d'amitié franco-allemand en 1963, on avait la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et on a aussi d'autres associations qui vont dans le même sens, comme par exemple le Bureau international de liaison de documentation, qui organise, selon l'exemple français, des colonies de vacances où se rencontrent Français et Allemands pendant l'été, animées par des équipes d'animation franco-allemandes, et qui sont eux aussi amenés à mieux se connaître, à mieux gérer ces choses ensemble, et ça marche très bien. On avait dit jumelage aussi tout à l'heure, donc ça commence à bien marcher depuis début des années 60, et c'est très très efficace. Aujourd'hui, il existe plus de 2000 jumelages, donc plus de 2000 endroits, villages, villes sont jumelés, et ça c'est vraiment, je pense, une des bases de départ des contacts franco-allemands qui marchent bien, parce que on se connaît, on va voir l'autre, on est accueilli, on est sûr d'être dans un contexte bienveillant, et on a le temps, et on prend le temps de se connaître et de développer des initiatives. Donc ça c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup marqué les relations franco-allemandes, qui a bien marché depuis les années 60. Et bon, les grandes entreprises ont développé aussi petit à petit des dépendances, des filiales dans l'autre pays. Et en même temps, les modèles économiques commencent un petit peu à se rapprocher aussi. C'est-à-dire, vous avez de plus en plus, dans les années 60-70, de grands groupes industriels qui se créent aussi en France. La France devient très vite aussi une nation exportatrice pour les biens d'équipement, pour les voitures, etc. Donc les deux modèles d'économie, à la fin des années 60, l'Allemagne de l'Ouest et France, se ressemblent de plus en plus. Ça aussi, ça crée des liens, évidemment, des connaissances, donc les entreprises d'exportation qui commencent à connaître. Après, évidemment, là aussi, il y a beaucoup d'anecdotes, parce que on n'a pas les mêmes schémas pour, par exemple, travailler ensemble, fidéliser les clients, gérer le client, le servir, tout ça, c'est au niveau de la culture de l'entreprise, de la culture commerciale, c'est très différent. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui a amené à des formations. Donc, vous savez, aujourd'hui, les formations qui existent dans les grandes écoles de commerce, par exemple, qui tiennent compte de ça et dont l'interculturel est vraiment quelque chose de très important. Je me souviens très bien, dans les années 60, qu'est-ce que c'était, oui, début 70, voilà, c'est ça. La France et l'Allemagne avaient connu le même phénomène, c'est-à-dire l'urbanisation. Vous vous souvenez aussi, il y avait la construction des grandes bars, des HLM partout, autour des villes, les villes s'agrandissaient. Et ça faisait donc encore plus, c'était beaucoup plus sensible en France qu'en Allemagne, mais le phénomène était le même, c'est-à-dire l'urbanisation et une désertification de l'espace rural, bien sûr. En même temps, en Allemagne, à la fin des années 60, début 70, il y avait une période où le gouvernement de l'Allemagne de l'Ouest misait beaucoup sur, par exemple, les efforts de formation. Donc il y avait l'ambition, vouloir amener un maximum d'élèves au bac et aux études supérieures. C'était quelque chose qui était partagé par tous les partis, un grand effort qui était fourni, et en même temps, vous aviez aussi la construction de facs dans des villes en Allemagne où elles n'existaient pas auparavant. Alors qu'en France, il y avait déjà un réseau d'universités, d'enseignement supérieur qui était assez important. Et donc là, même dans les années 60, 70, ça fait un gros effort pour rejoindre trouver un niveau à peu près pareil que le niveau français pour la formation.
Alors, monsieur, est-ce que vous pourriez parler plutôt de la RFA plutôt que de l'Allemagne, hein, puisque vous parlez beaucoup de la RFA. C'est très intéressant, mais je pense qu'il faut être précis.
J'ai pas compris, pardon.
Je vous demandais si vous pouviez vous demander de parler plutôt de la République fédérale allemande que de l'Allemagne quand vous traitez de la RFA, puisque c'est sur le sujet.
Oui, oui, d'accord.
Je vous remercie.
Okay.
Ouais,
oui,
parce qu'il y a aussi la RFA.
Je vais bien faire l'effort, oui.
Merci.
On en reparlera de ça.
On arrive un petit peu dans une période où la société est assez figée. Je me souviens très bien de tout ce qui est famille, rapport entre les membres de la famille, les jeunes. Vous avez une situation politique aussi qui était en Allemagne de l'Ouest, qui était assez figée. On arrive à 68. Et 68, moment clé pour les jeunes en France et pour les jeunes en Allemagne aussi. Donc les mouvements de protestation, mais qui étaient en France beaucoup plus importants qu'en Allemagne, qui ont mené après à des situations bien différentes. Moi je me souviens des années 70, où je suis entré en contact et en discussion avec les Français. On discutait évidemment, donc début 70, quelques phénomènes dont vous vous souvenez bien sûr. La bande Abadair en Allemagne, avec la répression, avec les attentats contre, par exemple, le procureur Buback ou le patron Schleyer, par exemple. En Italie, il y avait des mouvements parallèles. Et la grande discussion qu'il y avait entre la France et l'Allemagne pour dire est-ce que la répression contre la bande Abadair ne mènera pas à des dérives d'état policier, etc. Et je me souviens vraiment de discussions interminables. La presse s'y était mise, il y avait plein de papiers dans la presse française critiquant l'Allemagne. C'était vu vraiment d'un œil très très critique. Il y avait en Allemagne, vous avez peut-être souvenance de ça, des films qui traitaient de ça. On essayait de trouver aussi la parade pour en discuter de façon démocratique. L'honneur perdu de Katharina Blum est un de ses œuvres, un de ses films qui a fait date. Et donc, c'était la première fois que, en quelque sorte, la France regardait l'Allemagne et disait tiens, là, on se fait des soucis pour vous. Et critiquer l'Allemagne de l'Ouest de façon vraiment très directe. Ça, c'était pour les jeunes, c'était une bonne expérience parce qu'on était du coup, on n'était plus inconscient, on était très conscient que quelqu'un nous regardait et nous disait tiens, là, il y a quelque chose à faire. Moi, je me souviens que j'étais ma conscience était très aiguisée et je vivais pour la première fois en France, à ce moment-là, donc j'ai commencé par Rennes, après je suis allé à Poitiers, et je vois si vous vous souvenez, il y avait l'enlèvement du baron Rampin, et à cette période-là, c'était la même discussion en France, c'était exactement la même chose, et là je suis allé pour la première fois faire du journalisme, j'avais besoin d'en parler, et comme à Poitiers, j'avais personne pour en discuter, je suis allé voir Maxime Le Forestier, je l'ai interviewé et je lui ai posé quelques questions par rapport à ça. Et en allant m'en discuter après un concert, et c'était quelqu'un qui, par exemple, donc ça passait pas en Allemagne, c'était franco-français, Maxime Le Forestier, mais qui était quelqu'un qui était très conscient, par exemple, de cette tendance aussi. tout ce qui est censure, etc., contrôle, et qui était très... c'était quelqu'un qui pouvait très bien discuter de ça. Voilà. Parce que lui-même, il se trouvait parfois un petit peu éloigné d'antenne, des choses comme ça. 70, donc, une période qui, économiquement, c'était florissant, politiquement, hyper intéressant, très, 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 très utile aussi pour les relations franco-allemandes, parce que, justement, grâce au contact intensifié, il y avait beaucoup de discussions. Je me souviens aussi, j'ai appris que ça se... C'est combien 55 réacteurs français ne s'appelaient pas les centrales nucléiques, mais les centrales nucléaires. Donc c'était, pour le vocabulaire, on avait besoin de ça pour discuter, justement. Donc les Allemands rétorquaient parfois un petit peu par, justement, vous, les Français, et les centrales nucléaires, et le danger, etc. Alors qu'il y en avait en Allemagne aussi. Ça a amené quand même à une... C'était une période qui était faste, en quelque sorte, parce que l'enseignement du français était encore en bon état en Allemagne. L'enseignement de l'allemand en France, ça allait. Ça, c'est quelque chose qui, depuis, bon, a beaucoup progressé. Si vous regardez les chiffres, il y avait, dans les années 70, il y avait 12% des jeunes français qui apprenaient l'allemand, et il y avait 14 ou 15%. Moi-même, j'étais prof, j'ai appris le métier de prof de français. À ce moment-là, en Allemagne, dans les années 70, il y avait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on tourne autour de 2%, 2 ou 3% dans les écoles, malgré les efforts et malgré les traités qui ont été passés. Je me souviens, j'ai assisté avec mes étudiants, il y a 10 ans, à une rencontre entre Schröder et Raffarin à Poitiers, où ils avaient mis sur papier, avec tous les présidents des régions, donc il y avait d'un côté Ségolène Royal et de l'autre côté les présidents de régions allemands, ils étaient presque tous là, et on avait dit, bon, dans 10 ans, on veut doubler le pourcentage de l'enseignement de l'allemand en France et du français en Allemagne. Donc de 4% à 8%, en l'espace de 10 ans, ça peut paraître pas trop ambitieux, mais ça l'est, parce que ça n'est jamais arrivé, ça, c'est pas possible. Donc là, on a un grand handicap qu'on garde jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième grand handicap qu'on garde et qui est aussi en dégression, c'est les échanges scolaires. Donc heureusement qu'il y a les jumelages qui sont plutôt stables en nombre d'échanges, mais les échanges scolaires sont aussi en régression. Et ces deux-là, donc ces deux phénomènes-là, sont difficiles à enrayer, parce que vous avez aujourd'hui, si vous allez sur les forums d'entreprises franco-allemandes, par exemple à Strasbourg, vous avez énormément d'entreprises qui cherchent des collaborateurs bilingues, des franco-allemands qui sont capables de gérer les affaires. Et les entreprises disent aujourd'hui que n'importe quel apprentissage à part l'allemand est bon, on va les former à l'entreprise, à nos besoins, il faut surtout qu'ils soient bilingues. Donc il y a plein d'entreprises aujourd'hui, évidemment, qui en cherchent. Voilà, on passe un petit peu donc figures des années 68. Là, on en a un qui est franco-allemand, et l'autre qui n'est plus en politique, mais qui a dérivé en économie, c'est Joschka Fischer, côté allemand, et qui était aussi, on peut dire, hein, vraiment européen convaincu, mais qui ne fait pratiquement plus de politique aujourd'hui, c'est ça. Du côté des Allemands, il y avait une tendance dans les années 70 aussi qui était importante. Moi, j'ai vécu ça avec très grand intérêt. C'était les traités avec l'Allemagne de l'Est et avec la Pologne. C'était la Ostpolitik de Willy Brandt. Quelque chose que, je ne sais pas, vous avez peut-être partagé un petit peu, mais pour les Allemands, c'était très, très important. Surtout que si vous savez qu'il y a 9 millions de déplacés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc 9 millions de personnes qui venaient de l'ancienne Allemagne de l'Est, qui était Pologne, qui est devenue polonaise, et qui voulaient aussi un petit peu faire leur deuil, et puis avoir, à un moment donné, l'affaire polonaise réglée. Donc le courage qu'avait le gouvernement Willy Brandt, qui était de négocier ça avec les Polonais et de le présenter à leur propre électorat, était quand même considérable. Et je vous assure, les Allemands ont tous été devant la télé pour écouter les débats au Parlement juste avant la ratification de la signature, donc apportée à, surtout à, au contrat avec, au traité avec la Pologne. Ça a permis aussi aux personnes qui avaient quitté les biens là-bas, donc en 1945, d'accepter finalement la situation. Je peux vous en parler parce que dans ma famille c'était le cas. Et c'était vraiment, à un moment donné, une fois que c'était accepté, c'était apaisant pour les Allemands. Et ils pouvaient à nouveau se rendre en Pologne. Ils étaient sûrs d'être mieux acceptés parce que les Polonais étaient quand même très très rassurés aussi. Et c'était la base de la bonne relation entre la France et entre l'Allemagne et l'Allemagne de l'Ouest et la Pologne. L'Allemagne de l'Est en a profité à partir de 1989, mais les relations entre l'Allemagne de l'Est et la Pologne étaient, comme ils étaient tous les deux dans le bloc de l'Est, étaient de façon complètement différente donc, entre l'Allemagne de l'Ouest et la Pologne. Si vous aviez vécu, par exemple, dans les années 60 et 70, la période de Noël, où dans les fenêtres des maisons et des immeubles en Allemagne de l'Ouest, vous voyez des bougies. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient. C'était des bougies qui étaient censées rappeler deux choses. Premièrement, continuer à penser à nos frères et sœurs en Allemagne de l'Est. Ça s'est un petit peu tassé dans les années 70, ça n'existait plus après, parce que les deux Allemands se tournaient complètement le dos au début des années 80. Mais deuxièmement aussi, vous aviez les affiches et ces bougies dans les fenêtres, c'était un petit peu ça aussi, c'était n'oubliez jamais qu'on a eu, qu'il a fallu quitter, que 9 millions de personnes ont quitté contre leur gré, ce qui est aujourd'hui la partie de l'ouest de la Pologne. Et vous avez aussi une affiche qui m'a beaucoup marqué, qui disait répartie en trois parties, jamais. Et c'était une partie, c'était l'Allemagne de l'Ouest, deuxième partie, l'Allemagne de l'Est, troisième partie, c'était les territoires de l'Est, comme on appelait ça après la guerre, du côté où c'était un petit peu revanchard, réactionnaire. Voilà, donc sur ce front-là, les années 70 étaient vraiment très utiles pour avoir une meilleure relation avec les pays de l'Est et puis avoir aussi une meilleure relation avec l'Allemagne de l'Est parce que il y avait là aussi un traité qui formulait les relations intra-allemandes parce que c'était pas deux nations, donc on ne peut pas dire internationales. Mais il y avait des représentants consulaires, diplomatiques, échanges de, c'est pas des ambassadeurs, ça s'appelait autrement, ça s'appelait des représentants. Et donc on avait aussi là, trouvé une formule pendant les années 70 de coexistence. Après, bon, il y a eu bien sûr aussi plein d'aspects financiers entre les deux Allemagnes et du côté vu de la France. À la fin des années 70, début 80, on commençait à aussi un peu mieux comprendre la question allemande, c'est-à-dire cette question qui restait toujours sans solution, que deviendront les deux Allemagne. Ce qui a donné, vous vous souviendrez certainement, ça donnait lieu à beaucoup de discussions dans les médias, la radio, la télé, les discussions de vendredi soir. On réunissait 4 ou 5 journalistes et on parlait de la neutralisation possible de l'Allemagne de l'Ouest, de telle ou telle solution pour une éventuelle réunification. On citait l'Autriche, etc. Du côté français, on n'avait pas confiance. On disait, bon, toute l'Europe va glisser vers l'Est, on va perdre nous aussi une position importante en Europe si jamais il y a eu réunification. Et quand 89 est arrivé, vous allez vous souvenir aussi que Mitterrand était allé en Allemagne de l'Est parler avec le nouveau gouvernement, le maire de Dresde, par exemple, pour sonder avant que la réunification se fasse, si c'était vraiment voulu et si c'était vraiment imminent. Donc la position française à ce moment-là, pour, vis-à-vis de la réunification, a été vraiment très très... Comment on peut dire ? Qu'est-ce que vous direz ?
Circonspecte.
Ambiguë, hésitante, oui, parce qu'il fallait un petit peu pousser. Et puis si... enfin, certaines sources disent que c'était aussi une négociation autour de l'euro qui finalement a fait que la France a donné son accord pour la réunification. C'est-à-dire, grosso modo, on pourrait dire l'Allemagne a donné son accord pour abandonner le mark et la France a été d'accord pour accepter la réunification sous cette condition. J'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a une semaine au FIPA à Biarritz, un documentaire sur...